Bienvenue, messieurs, dames, à Panorama économique sur Radio Okapi. Voici les principales informations. Les entreprises congolaises face à leur responsabilité sociale. La première table ronde sur la responsabilité sociale des entreprises s'est tenue cette semaine à Kinshasa. L'État congolais exhorté à mettre en place un cadre réglementaire pour que les entreprises ne fassent pas ce qu'elles veulent, mais ce qu'elles doivent faire. Une nouvelle stratégie d'assistance pays de la Banque mondiale en RDC pour les 4 prochaines années, présentée ce lundi à Kinshasa. Elle portera essentiellement sur l'éducation, la santé, les infrastructures, 1 milliard de dollars américains pour la durée des 4 ans. C'est le financement attendu. Le désenclavement de Kindu à l'ordre du jour, les banques et messageries financières s'installent. Le bateau MB Lion de la tribu de Juda a lancé ses activités et a débarqué pour son premier convoi. Plusieurs centaines de tonnes de marchandises en provenance d'Ubuntu en province orientale. Et voilà tant d'autres sujets dans cette rétrospective de l'actualité économique de la semaine sur votre radio. Devant ce micro et dans ce studio, Berry Franklin Luchaka et Daniel Tambizoni pour vous présenter la rétrospective de l'actualité économique sur Radio Okapi. Berry, bonjour.
Bonjour Daniel et bonjour chers auditeurs.
Et chers auditeurs, nous avons l'habitude d'avoir avec nous un invité dans ce studio. Mais souffrez qu'aujourd'hui il n'y ait pas cet analyste pour commenter, analyser l'actualité économique de Radio Okapi cette semaine. Tout simplement, c'est un problème de calendrier, tout simplement un problème d'agenda, voulais-je dire. Mais en attendant, voici votre magazine.
Panorama économique, le dossier.
Commençons, Berry, cette rétrospective par Kinshasa qui a abrité du 12 au 13 les assises de la première table ronde sur la responsabilité sociale des entreprises.
Une dizaine d'entreprises y ont pris part et ont exposé chacune leurs œuvres sociales. Alors, sont-elles suffisantes ou insuffisantes? En tout cas, difficile de les quantifier en l'absence des textes réglementaires. Et ici, la responsabilité de l'État est interpellée. Les officiels qui étaient présents au débat, Daniel, ont promis de s'impliquer de sorte que les sociétés qui ont opté pour la RDC comme terre d'affaires répondent aussi aux besoins des communautés. C'est aussi l'avis de Thierry Téné, expert en responsabilité des entreprises.
Le concept, il est nouveau, oui et non. Nouveau où on commence à le structurer au niveau mondial. Hein, donc, depuis ça se part depuis 76 à peu près, hein, lorsque on a eu les principes directeurs de l'OCDE à destination des multinationales. On ne pense pas les multinationales, mais dans le contexte africain, c'est en RDC comme dans d'autres pays africains, les aspects de philanthropie, comme ailleurs, ont toujours été des choses primordiales. C'est-à-dire qu'une entreprise elle fait des bénéfices, que ce soit un entrepreneur local ou une entreprise multinationale, elle sait qu'elle doit mener quelques actions par rapport aux personnes qui sont autour d'elle. Ce qui change maintenant, c'est qu'on ne veut pas seulement les déclarer pas. Prouvez-moi. Ne me dites pas que vous faites. Moi, je veux avoir la preuve que vous faites dans différents domaines. Et la preuve qu'on peut vérifier. C'est de dire, nous on fait pour les communautés, oui, qu'est-ce qu'on a fait pour les communautés? C'était de tels coûts, mais peut-être par rapport au chiffre d'affaires que je gagne, ce que j'ai fait pour les communautés ne représente rien du tout. Or, ce que je fais pour les communautés, je ramène des hommes de médias comme vous, et vous dites, mais Thierry Téné est un patron responsable, très bien, mais monsieur le journaliste, quand vous êtes parti, peut-être que je traite mal mes salariés, peut-être que je pollue l'environnement. Or, on aura présenté la petite action que j'aurais distribué quelques cartables dans l'école du coin, on aurait présenté ça comme une bonne action sociale. Oh, derrière, je suis très polluant. Donc aujourd'hui, c'est de dire, pour chacun de ces aspects-là, de conditions de travail, ça c'est les 7 questions centrales de l'ISO 26000, comment je les prends en compte?
Quelle leçon, vous, personnellement, vous faites de la notion de RSE en République démocratique du Congo, vous qui avez suivi les débats depuis hier?
Oui, c'est vrai que j'ai la chance, l'opportunité m'a donné les organisateurs de modérer les débats. Et j'observe, vous avez suivi aussi comme nous, il y a eu des grosses attentes. Les questions sont assez précises. Les entreprises aussi, elles mènent des choses. Il faut encore qu'on aille plus loin dans certains domaines. Il y a une grosse attente en RDC ou tout cela. Ça me fait très plaisir. Et parfois, c'est assez exceptionnel ce qu'on a remontant des élus qui sont là, qui prennent du temps, qui ont pris des journées. C'est pas tous les jours. Hein. Peut-être que là, on ne se rend pas compte comme ça. Donc, ça, c'est des questions. On a eu la question là, du sénateur, du député, des questions assez précises. Donc, il y a un gros engouement. Maintenant, derrière tout ça, il faut qu'on réussisse. Et j'espère que la RDC va tout de suite, les participants vont tout de suite enclencher la démarche quand il y a une dynamique comme celle-là, qu'on va voir comment on la structure, voilà, il y a des besoins en termes de transparence des entreprises. On n'est pas d'accord forcément avec certains thèmes. La notion de table ronde qui a été retenue, il faut qu'elle continue. Il faut que maintenant on discute peut-être dans un cercle un peu fermé entre les entreprises ou leurs représentants, le gouvernement, les gouverneurs aussi, les provinces, les syndicats, les associations, un peu tout ce qui est dans la société civile. On discute comment, dans le contexte congolais, les forces, entre les forces et les faiblesses du pays, on va déployer la RSE dans le contexte congolais. Est-ce qu'ils font un label? Est-ce que la RSE Award, la remise des prix, il faut la faire chaque année? Si oui, comment? Quels sont les critères qu'on définit? Et au sorti de là, on retient quelque chose, vu tout l'engouement que j'observe et que je ressens.
Quelques entreprises qui participent à cette table ronde se vantent d'avoir donné des kits scolaires, avoir réfectionné, réhabilité des hôpitaux. Est-ce que c'est vraiment ça qui rentre dans la responsabilité sociale des entreprises?
Initialement, c'est vrai que quand le mouvement émergeant passait de volonté sociale, mais aujourd'hui c'est volonté sociétale, donc c'est aussi bien l'environnement que le social. Il faut dire que non, les actions de philanthropie, c'est ce qu'on faisait avant. Même si, dans le contexte africain, paradoxalement, que le consommateur moyen ou les personnes, même les élus, attendent la philanthropie. Et c'est pour ça que les entreprises y répondent en nous offrant la philanthropie comme RSE. Actuellement, nous sommes très sensibles à l'entreprise X qui a fait une école, mais c'est très bien l'éducation des Congolais, mais vraiment construire une école, c'est vraiment une très très bonne chose. Mais j'ai aussi besoin de savoir, est-ce que l'entreprise là contribue à la corruption dans le pays? Est-ce qu'elle traite bien les salariés? Est-ce que d'un point de vue environnemental, les impacts sont limités au maximum? Voilà, vous voyez que c'est ça, ce sont des questions, mais comme la société attend de la philanthropie, parce qu'on a des besoins sociaux très très importants. Donc l'entreprise qui va répondre à ce besoin social va le valoriser, et nous allons tout de suite, sans regarder les autres actions, nous allons tout de suite épouser la démarche philanthropique, alors qu'aujourd'hui il faut qu'on aille un peu plus loin. Mais après aussi, la philanthropie, c'est quelque chose de bien, parce que si dans un village il y a la salle de classe qui n'est pas réflexionné, qu'il n'y a pas d'électricité, qu'il n'y a rien du tout.
Où les enfants se mettent à même le sol.
Donc c'est clair que ramener des cartables, avoir un tableau, tout machin, aménager, peut-être qu'il parfois même pleut même sur les enfants qui sont dans des classes. Donc aménager tout ça, c'est clair que c'est une très très bonne chose. Mais il faut qu'on trouve un équilibre entre cette philanthropie où quand l'État dans certaines régions peut faire certaines choses, voir comment on a un partenariat public-privé, comment l'État travaille avec les entreprises dans ce sens. Et l'État dit, la philanthropie, chaque année, on aura par exemple un award de RSE, peut-être style contribution au développement du pays, ça sera la philanthropie, mais qui a le plus de budget là-dedans? Donc l'État va dire, pour des questions de construction des écoles, cette année c'est l'entreprise X qui a le plus contribué à la construction des écoles. Donc ça permet de dire, l'entreprise X a mis X nombre de dollars, l'autre a mis beaucoup moins, ça permet pour ce point-là d'avoir un indicateur. Donc le tout n'est pas de dire il faut faire ou il ne faut pas faire, parce que les entreprises le font, ça répond à un besoin aussi de leur partie prenante, du premier périmètre.
Et c'est là où cela implique l'État, maintenant le pouvoir, afin de réguler aussi par des lois.
Là, vous évoquez la question principale. Il faut qu'on ait une démarche législative favorable. Si Thierry Ten est patron d'une PME, j'essaie de faire des efforts RSE. Imaginons, prenons rien que l'aspect de la transparence. Si je suis transparent, je paye mes impôts, j'affiche tout que je paye mes impôts. Mais si après, c'est parce que je déclare que je paye mes impôts, tout très bien, que j'ai des inspecteurs tous les jours qui viennent me visiter, alors que celui qui ne paye pas ou qui paye partiellement ses impôts et qui contourne, lui, il est tranquille, c'est clair que ça pose un problème. De la même manière, si je dis, oui, en termes de pollution environnementale, voilà les impacts que j'ai, je suis en train de travailler de leur réduire. Si, parce que je dis cela, les autorités, c'est moi qu'on vient contrôler, qu'on vient harceler, alors que ceux qui ne déclarent même pas les pollutions qu'ils font, ils sont tranquilles, c'est clair que ça pose un problème. Donc l'État est central, et plus l'État va donner de l'impulsion, autant les entreprises vont suivre.
Monsieur Thierry, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Deuxième sujet de la semaine, directement, la Banque mondiale, bureau de Kinshasa, a initié depuis le début du mois en cours des concertations avec les différentes couche de la population congolaise, ceci afin de préparer sa nouvelle stratégie d'assistance pays.
Alors Daniel, la banque a présenté lundi les desiderata recueillis. Et en conclusion, éducation, agriculture et infrastructure sont les trois secteurs prioritaires qui bénéficieront de l'essentiel des fonds d'assistance de la Banque mondiale pour les quatre prochaines années. $1 milliard américains, c'est la taille de l'enveloppe qui financera les projets de cette nouvelle stratégie. Eustache Ouayoro, directeur des opérations de la Banque mondiale pour la RDC et le Congo-Brazzaville, revient ici sur d'autres aspects du programme.
Disons que c'est pour les 4 prochaines années. Essentiellement, nous serons dans la promotion de la compétitivité de l'économie et la création d'emplois. Nous serons également pour supporter la résilience contre les vulnérabilités de toutes sortes, essentiellement au changement climatique et aux chocs exogènes et endogènes. Et nous allons supporter la bonne gouvernance et le renforcement des capacités au niveau national.
De toutes les consultations que vous avez eues, qu'est-ce qui vous a plus marqué, Banque mondiale?
Mais disons que toutes les consultations ont été intéressantes, très utiles, car les perspectives ont été différentes en ce qui concerne les intervenants. Le secteur privé a eu une vision en ce qui concerne les tracasseries et le climat des affaires. Les jeunes ont eu une perspective en ce qui concerne la création d'emplois. Et donc, les bailleurs de fonds ont surtout parlé de la manière dont on pouvait coordonner nos actions. Le gouvernement nous a clarifié un peu les priorités de son action gouvernementale. Et donc, tout cela nous a permis d'identifier un peu les programmes sur lesquels nous voulons nous focaliser, compte tenu du fait que nos ressources financières restent limitées pour les besoins d'un pays comme la RDC.
Une petite différence entre la nouvelle stratégie et celle qui s'achève?
Ouais, disons que de façon générale, ce que nous voulons nous focaliser essentiellement sur la création de richesses.
Et rapidement, nous allons prendre le troisième et dernier dossier de ce panorama économique sur votre radio, l'Association des commerçants importateurs de l'étranger, CIB en sigle, œuvrant à Lubumbashi dans la province de Katanga, a dénoncé cette semaine les tracasseries dont sont victimes ses membres.
Ils accusent les agents percepteurs de l'Office de la gestion du fret multimodal, OGF en sigle, commis au port de Dar es Salaam en Tanzanie. Dans une déclaration faite lundi à Radio Kapi, Edouard Soumaïli, président de la CIB, indique que pour une même marchandise embarquée à l'étranger, ils doivent débourser $130 américains à l'OGFREM et au retour, on leur remet une attestation de destination. Et une fois à Kasumbalesa, ils sont obligés de payer $0.5 par pièce importée, ce qui, d'après eux, constitue une double taxation. Edouard Soumaïli l'a dit au micro de Colin Djoumamoussompo.
La BCI se plaint contre le comportement de l'OGFREM, parce que l'OGFREM est en train de nous faire payer, il crée une taxe illicite à l'étranger. Alors nous disons trop, c'est trop. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous venons nous plaindre pour que les autorités sachent qu'il y a une perception des taxes à l'étranger. Alors nous nous sommes dit, nous voudrons savoir si cette taxe est réelle, qu'on nous prouve par un document légal. Nous voulons une autorisation préalable de tous ces bureaux qu'ils ont implantés à l'étranger. Nous ne sommes pas contents parce que ce qu'on nous fait payer à l'étranger, ça nous coûte de l'or. Ça nous coûte très cher parce que cet argent, nous déposons l'argent sur un autre territoire. Si nous sommes à Dar es Salaam, vous allez constater que l'argent que nous payons à Dar es Salaam ne va pas dans notre trésor public. Il y a certaines banques que nous avons eues, les comptes de l'OGFREM en Italie, en Belgique, à Dar es Salaam. Mais ça ne sert pas le Congo.
Et pour sa part, Paul Dimandja, sous-directeur en charge des activités techniques à l'OGFREM Katanga, indique que son institution ne perçoit jamais les taxes. En outre, l'attestation de destination dont parlent les commerçants revient à $50 américains à l'étranger et non à $130. Le $0.5 exigé, c'est le montant perçu sur le chargement et le déchargement du fret au profit de l'OGFREM.
Économique. Chaque samedi à 12h30, Radio Okapi vous offre le survol de toute l'actualité économique de la semaine dans Panorama économique. La vie de marché, les développements des entreprises, l'impact des décisions diverses sur la vie économique, c'est Panorama économique.
Autre info de la semaine en plus bref, Berry, incompréhension à Munéditou entre la direction générale des impôts et les opérateurs économiques. Nous en parlions mercredi.
Oui, Daniel, le conflit a commencé depuis le début de la semaine et à la base, le montant de l'impôt professionnel sur la rémunération d'exploitants individuels. La Fédération des entreprises du Congo, FEC Munéditou, accuse la DGI de doubler l'imposition, ce que rejette la DGI qui parle plutôt de l'abandon du système forfaitaire.
Trop de barrières militaires en territoire de Mouinka a énervé la population de Lougouchoua.
Et selon les témoignages recueillis sur place, ces barrières sont placées à Miassa, Nyangouloubé et à Nyamoupé dans la chefferie de Wamouzimou. J'y suis. Les hommes en armes y font payer entre 500 et 1000 francs congolais à chaque passant. Les mêmes témoignages disent que ces barrières étaient d'abord supprimées puis rétabli. Nous n'avons pas pu joindre l'autorité militaire concernée pour plus de précisions.
Retournons à Kinshasa-Berry où une délégation d'hommes d'affaires sud-africains expose depuis jeudi ici au Grand Hôtel Kinshasa.
Ils sont plus de 70 opérateurs économiques venus chercher des partenaires congolais, conclure des marchés, des partenariats avec des Congolais dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie, des mines, l'agroalimentaire. Ce sont quelques secteurs qui les intéressent le plus. La même délégation est attendue les 18 et 19 juin prochains à Lubumbashi au Katanga.
La police de proximité de Matadi a versé 309 500 francs congolais dans les caisses du trésor public et cela pour le compte de la Direction générale des recettes administratives domaniales et de participation, la DGRAD. C'est une première.
Ce sont les recettes du mois de mai 2012 relevant des amendes et autres frais de justice collectés dans les différents postes de police de Matadi. Pour encourager ce premier acte de la police, une première dans la province, comme vous l'avez dit Daniel, et renforcer la collaboration entre les deux services, la DGRAD a adressé une lettre de remerciement à la police de proximité de Matadi.
Autre chose, quatre structures de l'État rattachées à la primature et jugées budgétivores par l'actuel Premier ministre sont dissoutes. Il s'agit du cadre permanent du dialogue social, fameux CPDS, de la commission de récupération des immeubles et terrains de l'État, de la commission interministérielle d'audit et de bonne gouvernance, ainsi que le comité technique interministériel chargé du suivi et de l'évaluation du programme macroéconomique du gouvernement. Matata Ponyo a pris cette décision au terme des décrets qu'il a signés le 7 juin en courant. Les quatre décrets mettent ainsi fin aux activités de ces structures dont l'existence n'était pas justifiée selon la décision. Pour rappel, toutes ces structures étaient créées à l'époque où Adolphe Mouzito était Premier ministre.
Panorama économique, reportage.
Banque commerciale et des messageries financières à Kindu, c'est une première depuis la création de la province du Maniema. La présence de Robank et de Tembe venue appuyer les maisons de transfert de fonds est appréciée aussi bien par la population que par les hommes d'affaires. C'est le début du désenclavement, pense-t-il, et c'est ce que nous décrit ici Amina Mouacha de la radio Hakiza Binadam.
L'installation de ces banques ainsi que les maisons de transfert d'argent contribuent petit à petit au désenclavement économique de la ville de Kindu. Depuis quelques mois, les habitants de Kindu constatent des changements positifs dans le développement de leur ville. Aujourd'hui, ils peuvent reconnaître que le désenclavement de cette ville est au fur et à mesure une réalité. Paul Mbolenga, président de la FEC.
Nous savons que le Maniema est enclavé par plusieurs raisons, mais aujourd'hui il est en train d'être désenclavé. Je vais prendre le cas des deux banques, des deux institutions financières qui viennent de s'installer, notamment Eurobank et Tembe. Ces banques sont des banques qui ont des relations au niveau international pour faciliter les opérations économiques de leurs transactions commerciales. Donc avec ces deux banques, nous savons qu'il n'y a maintenant pas de désenclavement pour le secteur économique.
La clientèle de ces banques partage cet avis car cela faciliterait les transactions financières et les paiements rapides des créances. Un responsable de l'une de ces banques avoue cependant qu'il faut encore du temps pour que la population puisse s'y habituer. Un agent de la Rao Bank.
Il est vrai que les banques au Congo, c'était il y a longtemps. Il y a plusieurs décennies que les banques n'existaient plus dans certains coins du pays. Tout de suite, les gens ne se sont pas encore habitués aux opérations bancaires.
Signalons cependant que pour le moment, ces banques ne sont installées qu'à Kindu et non à l'intérieur de la province où il n'y a que de maisons de transfert de fonds. Il s'agit notamment des Soficom, Malo Express, Solidaire, SPC, Mekreki. Depuis Kindu, Amina Mwacha de la radio Akiza Binadamu Maniema pour Eco d'économie.
Merci Amina pour ce reportage et nous allons prendre quelques autres nouvelles de la semaine. Le ministre des Mines parle trichement du CESCAM, une de ses structures techniques, et les divisions provinciales des Mines demandent à tous les tenanciers des dragues et autres exploitants miniers à petite échelle de se conformer à quelques nouvelles dispositions prises par le responsable de cette structure. Le coordonnateur général du CESCAM l'a fait savoir par une note circulaire dont une copie est arrivée à Radio Okapi. Les détails avec vous, Noëlla Luzito Kabambi.
D'après cette note circulaire, tout tenancier de drague opérant sur les sites miniers en République démocratique du Congo est tenu d'en faire l'enregistrement auprès de l'administration des mines, moyennant paiement d'une taxe dont les taux sont fixés de la manière suivante. Pour l'enregistrement des dragues à grande échelle, c'est-à-dire égal ou supérieur à 8 puces, il faut payer 10 000 dollars américains, 3 500 dollars pour les moyennes, c'est-à-dire celles qui ont entre 4 et 7 puces, et enfin 1 600 dollars pour les petites, donc celles qui ont moins de 4 puces. En application de l'article 262 du 11 juillet 2002, ces exploitants sont soumis au régime de taxation unique forfaitaire sans préjudice du droit d'option pour le droit commun. Et pour assurer un paiement effectif de la taxe d'enregistrement et de l'impôt, une équipe composée de représentants du cabinet du ministre des Mines, de l'administration des Mines, de SAESCAM, de la DGI et de la DGRAD arrive incessamment dans les provinces pour une mission d'identification, de vérification des titres miniers et de recouvrement. Les tenanciers des dragues et autres opérateurs de mines à petite échelle, non en règle, ont l'obligation de régulariser leur situation sans délai auprès du SAESCAM, à la division provinciale des mines et à la direction provinciale de la DGRAD pour l'enregistrement des dragues et le paiement des taxes y afférentes.
Les pays membres de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC en sigle, en réunion de 3 jours à Kinshasa, ils ont parlé des statistiques. Du mercredi au vendredi, hier donc, les directeurs généraux des instituts nationaux des statistiques des pays membres de cette organisation régionale se sont retrouvés dans la capitale congolaise pour un travail touchant tous les domaines de la statistique nationale et régionale. L'objectif premier était de produire, entre autres, un indice harmonisé des prix pouvant à son tour éclairer le commerce non seulement dans la région SADC, mais aussi dans tous les continents africains. Les détails de ces assises avec le directeur du Centre africain des statistiques de la Commission économique de l'ONU pour l'Afrique, Dmitri Sanga, est au micro de Dona Madimba.
Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Comme vous savez très bien, l'Union africaine essaye de faire en sorte qu'il y ait l'intégration du continent. Et pour avoir cette intégration, il y a plusieurs éléments, dont avoir une monnaie unique. On ne sait pas quand cela va venir, mais ça viendra dans le futur. Et pour avoir une monnaie unique, les pays doivent avoir des politiques monétaires communes. Et un des éléments importants pour conduire une politique monétaire, ce sont les indices des prix, parce qu'ils nous permettent d'avoir le niveau de l'inflation dans le pays. Ainsi, si vous voulez vendre du sucre en dehors du Congo, vous voulez le vendre en Zambie, vous allez être au courant du prix du sucre là-bas et ça va vous donner une idée si ça vaut la peine d'exporter le sucre ou de le vendre à Kinshasa.
Terminons par cette décision tombée cette semaine. Une note circulaire de l'autorité de l'aviation civile en RDC demande à toutes les compagnies assurant l'exploitation du transport aérien à se soumettre désormais au contrôle de performance et de limitation de masse aussi bien au décollage qu'à l'atterrissage à l'aéroport de Goma dans la province du Nord Kivu. L'économie de cette décision de l'AAC qui est en même temps un ordre de stricte observance avec vous, Babel Pongo.
Selon une note circulaire signée par Richard Nyangwile et DG de l'autorité de l'aviation civile, afin de prévenir les risques d'incidents ou d'accidents d'avion, l'exploitation du transport aérien public par les compagnies aériennes, surtout celles exploitant les aéronefs dont la masse moyenne maximale au décollage excède 5 700 kg, seront désormais soumises au respect strict du contrôle des performances et des limitations des masses au décollage et à l'atterrissage. En plus, en cas de dégradation des conditions météorologiques, le commandant de l'aéroport ne peut autoriser ni décollage ni atterrissage jusqu'à l'amélioration sensible des conditions sécuritaires. Par ailleurs, conformément aux standards internationaux, les exploitants doivent être tenus au courant de ces informations toutes les 15 minutes en vue de leur permettre de prendre soit la décision d'annulation des vols, soit celle de déroutement. Ce sont là, du moins, les termes de la note circulaire, nous rappelons, de l'autorité de l'aviation civile, conformément à l'article 6 de la loi numéro 10/014 du 31 décembre 2010. Notez que tout membre manquement à ces mesures pourrait entraîner le retrait de la licence d'exploitation et des titres aéronautiques délivrés par l'autorité de l'aviation civile au cas où la responsabilité de l'exploitant est établie.
Merci Babel Pongo, merci Mango, merci à vous chers auditeurs et surtout merci à Paul Badenyama qui était à la technique. Ainsi s'achève Panorama économique de cette semaine. Nous sommes très heureux de vous retrouver lundi 18h15 heure de Kinshasa pour Écho d'économie. Mais retrouvez en attendant Panorama économique de cette semaine toute la semaine sur www.radioocapi.net. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus. Bon week-end à vous tous et surtout très bonne suite de programmes sur votre radio. Au revoir.